应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor pour ce dernier numéro de la saison. Et cette semaine, notre toile devient la matière de deux œuvres riches qui interrogent la création artistique, la matière du trait minéral Rodin de Jacques Doyon, et puis aussi le terreau de la création filmique d'Arnaud Desplechin et de son double Mathieu Amalric dans Les Fantômes d'Ismaël. Pour Rodin, ce sera tout de suite avec Anastasia, et puis ensuite je retrouverai Marie et Marie pour Les Fantômes d'Ismaël. Pas de sérivore cette semaine, donc Pierre soit parti en vacances profiter des douceurs de l'été, si vous voulez tout savoir, il m'a suivi en Allemagne à l'heure où j'enregistre, il pleut. Mais Pierre a organisé un grand jeu sérivore pour cette fin d'année, lequel jeu a été publié séparément, vous trouverez le lien vers ce jeu sur la page de l'émission. Et puis après quelques sorties cinéma que je vous conseille pour cette semaine une dernière fois cette année, nous terminerons cette saison riche de nombreuses découvertes et expériences avec un petit retour sur cette année et une des annonces de la saison. Mais tout de suite, nous retrouvons donc Anastasia pour une petite chronique sur Rodin de Jacques Doyon.
Bonjour chères auditrices et auditeurs. Dans cette partie de l'émission, notre toile perce d'un regard attentif et sensible le film de Jacques Doyon sur l'un des plus grands artistes du 19e siècle, Rodin. Cette fois, je me sers de mes propres yeux pour vous parler de ce film. On se retrouve en 1880, l'année où Rodin a eu sa première commande de l'État, la fameuse Porte d'Enfer. L'artiste travaille dans son atelier avec son assistante et maîtresse Camille Claudel. 10 ans de passion en art et en relation se terminent par une rupture douloureuse, mais passion restera toujours dans le travail, la vie et l'œuvre de Rodin. J'ai eu la chance de discuter ce film avec d'autres gens qui ont été déçus par le film et cela m'a donné envie de faire un avertissement. Si vous voulez voir un documentaire bibliographique, ce n'est pas le bon film. Si vous attendez un film avec de l'action, l'intrigue, pareil, ce n'est pas le bon film. C'est un film avec un caractère absolument différent, mais avec un caractère bien présent tout de même. C'est un film contemplation, et c'est la contemplation qui se trouve derrière et devant la caméra. Ce n'est pas un film sur l'artiste, mais sur la façon dont un grand artiste travaille, où il puise son inspiration, comment il crée, comment il touche les objets, comment il perçoit les formes, comment il les regarde. Le réalisateur nous fait regarder le regard, pas seulement de Rodin, mais de Camille, c'est-à-dire de l'artiste tout court. Je dirais que ce film nous apprend à regarder la sculpture et à l'apprécier autant que les artistes. Il n'y a rien de révolutionnant ni de choquant dans Rodin. Certains pourraient voir dans ce film une histoire d'amour et de séparation, histoire d'aventure amoureuse de Rodin avec d'autres femmes. Oui, certainement, mais ce n'est pas la visée du film, ce n'est pas son centre. C'est plutôt le moyen d'explication. Cela peut paraître un peu prétentieux, mais j'avais un sentiment parfois que le réalisateur essaie de nous mettre dans les mains de Rodin pour qu'on puisse sentir et comprendre comment il travaille le corps dans sa sculpture. Une telle ambition me paraît très juste, car c'est très souvent qu'on comprend l'œuvre au moment où on comprend comment elle a été travaillée. En tout cas, on commence à apprécier ce travail encore plus dès qu'on voit toutes les difficultés de sa réalisation. C'est le paradoxe de l'art et de la sculpture, notamment les grands artistes arrivent à atteindre une légèreté parfaite qui nous fait perdre le sentiment de travail lourd et long qui se trouve derrière tout ça. Mais c'est avec l'entrée dans les détails de ce travail qu'on commence à apprécier véritablement le talent de l'artiste. C'est pour cela que la caméra nous donne des pauses longues pour qu'on puisse suivre le travail du regard de l'artiste qui compare, qui puise, qui cherche. De ce point de vue, c'est un film cynique, aussi que le travail des artistes. Certes, le personnage central du film est Rodin et pas Camille Claudel, de même que dans la vie, Camille Claudel restera toujours à l'ombre de Rodin. Mais c'est pour cela aussi que le film s'appelle Rodin. Ceux qui connaissent la bibliographie de Rodin pourront certainement dire qu'il était cruel, qu'il avait beaucoup de femmes, que Camille a fait plusieurs avortements à cause de lui, et à cause de lui peut-être elle est devenue folle. Mais l'objectif de ce film ne consiste pas en dévoilement de l'homme Auguste Rodin. L'objectif est de nous mettre de côté de Rodin et voir comment il criait et comment il aime. Parce que c'est la passion qui est la file directrice de ce film et de l'œuvre de Rodin. C'est la passion qu'il éprouve en vie et qu'il transmet dans ses œuvres. Pour un artiste comme Rodin, il n'y a pas de choix entre le travail et la vie sentimentale. Les deux ont la même importance et l'une ne peut exister sans l'autre. À plusieurs reprises dans le film, on dit que la sculpture de Rodin est très vive, que les personnages en plâtre et en marbre sont vivants. Et c'est ça le questionnement du film. Le réalisateur nous montre la raison pour laquelle la sculpture de Rodin a plein de vie. Et c'est parce qu'il vivait lui-même ses sculptures. Il les aimait, il aimait les femmes qui l'entouraient, il avait de la passion pour elles, et vice-versa, les femmes qui l'entouraient l'aimaient aussi, et elles aimaient sa sculpture. C'était la relation qui rendait fou, qui épuisait, qui parfois n'était pas juste, mais c'était ces relations qui inspiraient Rodin pour son travail, et de même, sa passion pour la sculpture l'inspirait pour la vie. Et je vous encourage donc, chers auditeurs et auditrices, à voir ce film. C'est un film qui ne plaira certainement pas à tout le monde. Il plaira sans doute pour le choix des acteurs que je trouve particulièrement réussi, avec Vincent Landon pour le rôle de Rodin et la jeune Isia Higelin pour le rôle de Camille. Ce film plaira pour son image, pour le mouvement de caméra, mais je suis persuadée qu'il trouvera aussi ses amateurs de la part des spectateurs qui y trouveront de la vie, de la passion et peut-être d'apaisement. Je vous souhaite donc de très bonnes vacances et à bientôt sur Transistor.
Et je vous retrouve donc, Marie et Marie, hein, une fois de plus.
Bah oui, comme ça arrive toujours. Quand même très souvent.
pour Les Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin. Alors Ismaël, c'est un réalisateur quarantenaire, hein, Mathieu Amalric, une fois de plus, qui passe ses nuits à boire et à écrire pour un film dont le tournage s'apprête à commencer. Alors il est en Vendée avec sa compagne Sylvia quand apparaît sur la plage son épouse, Carlotta, disparu sans prévenir 21 ans plus tôt. Un retour brutal qui va soudain fissurer toutes les certitudes péniblement acquises par Ismaël. On a souvent résumé le scénario à ça, et c'est vrai que c'est l'élément principal, mais comme on le verra dans un instant, il y a bien plus de choses qui se passent dans ce film. Mais avant de rentrer dans les innombrables détails, quel est votre avis sur ces fantômes d'Ismaël, Marie et Marie donc? Eh bien Marie, je te donne la parole.
Alors moi, c'est mon premier Desplechin, mais je suis assez convaincue pour le coup.
Mais moi aussi, je suis très contente. J'ai passé un très bon moment, même si c'est pas mon premier Desplechin, mais j'ai toujours plaisir à retrouver l'univers.
Et toi, Rémi?
Eh bien, c'est pas le premier non plus, mais on retrouve bien sûr un univers qui est extrêmement agréable et que décidément on aime bien, et un univers qui est un petit peu différent, j'ai l'impression, ce coup-ci, avec quand même une espèce de baroque qu'on ne retrouvait pas forcément tout le temps précédemment, un rythme extrêmement intéressant, et c'est vrai que le film nous emporte vraiment, surtout dans une deuxième partie. J'ai quelques réserves à émettre, précisément sur le fait que quand on a un rythme si enlevé, c'est très facile qu'il y ait quelques petits écueils au niveau de la rythmique, au niveau de l'intelligibilité du scénario. Et la première partie du film, surtout, en pâtit un petit peu. Cela dit, autant le dire tout de suite, le film sort dans la quasi-totalité des salles dans une version amputée de 20 minutes. Et certains critiques qui ont vu la version longue parlent véritablement de saccage.
D'accord, donc, parce que oui, nous sommes les pauvres, ouais, nous n'avons pu voir que la version courte, malheureusement.
Voilà, donc peut-être que la version longue est complètement exempte de ces petits problèmes que je vois dans le film qu'on a vu. Malgré tout, donc, c'est un film qui m'a beaucoup plu, D'abord par son côté extrêmement foisonnant, il y a vraiment quelque chose de très très baroque là-dedans, à commencer par les niveaux méta qui se succèdent les uns après les autres.
Et toutes les intrigues dans les intrigues dans les intrigues. C'est sûr qu'il y a des gens à qui ça peut déplaire si vous n'êtes pas du genre à aimer les films qui juxtaposent plein de niveaux de lecture comme ça, c'est clair que c'est pas un film pour vous, mais moi c'est le genre de choses que j'aime bien aussi, quoi. On s'y perd un petit peu parfois, mais c'est pas désagréable non plus.
Oui, non, il faut se laisser emporter, je pense. Et c'est assez réjouissant aussi par rapport à la bande-annonce qui peut paraître un peu... Enfin, moi, elle m'avait un peu déçue, parce qu'on a l'impression que tout est joué déjà dans la bande-annonce, la femme revient, etc. Bon, du coup, on fait des spoilers, comme on dit, mais je veux dire, finalement, ce prétexte de Carlotta qui revient, etc., ça devient juste un prétexte, justement, une sorte de... d'anecdotes dans tout le reste, dans tout le foisonnement du film.
Un film narratif parmi d'autres, parce qu'il y a quand même beaucoup de films narratifs qui se déroulent. Il y a le personnage de Sylvia, qui est au moins aussi important, sinon plus, que Carlotta. C'est à lui que revient toute la conclusion du film qu'elle énonce face caméra.
Dans une très belle scène, d'ailleurs.
Dans une très belle scène, et il faudra qu'on reparle des actrices...
Oui.
Aussi, il y a aussi ce film du coup qu'Ismaël tourne, dont on voit de nombreuses scènes. Alors là, c'est d'ailleurs, on commence par une scène de ce film, hein, on comprend pas d'ailleurs tout à fait ce qui se passe quand ça démarre.
Il y a d'autant plus de confusion que comme le film fait un peu référence aux frères diplomates d'Ismaël, ça crée
et
encore plus de confusion.
Et aux frères diplomates de Desplechin, hein, n'oublions pas tous les niveaux méta. C'est un petit peu compliqué. Et il y a ce film parallèle qui nous amène de temps en temps par quelques séquences dans du film d'espionnage, une espèce de thriller mais assez rigolard en même temps, et puis on n'y croit pas vraiment.
C'est un Kazakhstan complètement de bric et de broc, hein, ça il faut le dire. Mais d'ailleurs, le film en lui-même est un film drôle, ça je m'y attendais pas forcément. Il y a énormément de choses très... très rigolote, quoi. Enfin, on voit que le cinéaste s'est fait plaisir, quoi. Par exemple, ce film d'espionnage qui est complètement un peu parodique, quand même, avec du trash à la fin qui est complètement fait exprès, ou alors des cadrages, des moments dans le film d'une manière plus générale. J'ai bien aimé ce côté un peu drôle. Plus, c'est toujours plus sympa à voir en groupe, parce que du coup, on rigole plus.
Oui,
puis il joue avec un certain nombre de codes. Même au moment où Carlotta réapparaît, il joue tout d'un coup avec les codes du film de genre, un petit peu au niveau des cadrages, avec cet escalier étroit qu'on filme en contre-plongée. Il joue beaucoup avec un certain nombre de codes comme ça.
Mais si du coup, parfois, des éléments... Je sais, j'ai pas toujours su, je pense par exemple à la musique, j'ai pas toujours bien su si c'était volontaire ou s'il y avait pas quand même un peu de premier degré. C'est un film dans lequel il y a beaucoup de violons qui jouent en permanence. Ils sont chiants. Franchement, ça, c'est un des points qui m'a un petit peu saoulé dans le film quand même. Et je ne suis pas totalement sûre que ce soit fait exprès, quoi. C'est peut-être un peu facile de toujours dire que oui, mais c'est de l'autodérision et c'est fait exprès. Ils sont quand même là et ils sont quand même chiants.
Pour que ça soit de l'autodérision, en fait. Il y a quelques violons qui grincent dans le fond sonore assez régulièrement, et c'est vrai que c'est un petit peu gênant.
Ouais, c'est vrai, je suis un peu d'accord. Mais après, la photographie, on n'en a pas parlé, mais la photographie, vraiment... Enfin, en fait, moi, ça m'a fait un peu oublier la musique.
Dédicace à la Vendée.
Oui, dédicace à la Vendée, vraiment. J'étais émue aux larmes devant. non, devant cette lumière vendéenne qui a quand même été filmée avec grâce, je dirais, quand même. Non, mais c'est vrai que ça m'a presque fait oublier la musique. Parfois, il y avait quand même des plans... silencieux, avec juste des visages, de la lumière à travers les vitres. Enfin, il y avait des jeux de lumière vraiment, vraiment, vraiment magnifiques.
Oui, du coup, il y a toutes ces intrigues qui bouclent un peu les unes sur les autres. On a aussi tout un discours sur le cinéma, sur la création, qui était déjà régulièrement à l'œuvre chez Desplechin, mais qui là, foncièrement à l'œuvre, hein, puisque le personnage principal est un réalisateur. Et un réalisateur qui a du mal à finir son film. Il y a des scènes qui sont parmi les plus incroyables de ce film, où son producteur exécutif va venir par le courser et l'enlever, aller le chercher jusqu'à Roubaix pour qu'il vienne tourner son film. Il y a quelque chose qui ressemble énormément à 8,5 dans l'esprit de... Alors, il y a encore quelqu'un qui va se sentir exclu dans ce
oui,
studio.
Oui, bah, comme d'habitude, Rémi, je suis désolée. Voilà, voilà. Je veux pas dire,
mais
voilà.
Mais il y a vraiment quelque chose de ça dans aussi la profusion des images, des scènes qui sont pas forcément complètement raccord entre elles, mais qui sont extrêmement ludiques à chaque fois et qui parle systématiquement de tout ce travail de réalisation et de toute la vision qu'il y a aussi, ouais, de tout l'imaginaire d'un réalisateur.
Par exemple, quand Ismaël prend le train pour Roubaix,
oui,
c'est un train mais complètement fake. Enfin, c'est plus fake que c'est pas possible de faire ça. Il est complètement anachronique, ça se voit que c'est du faux.
Il passe dans le canal à un moment.
Ouais, c'est ça. Il y a un espèce de fond qui est projeté derrière pour faire croire qu'il y a du paysage, mais c'est raté comme pas possible. Et c'est tellement drôle, quoi. Ouais, c'est tellement jouissif à voir.
Finalement, tout ce qui mêle toutes ces scènes et toutes ces séquences, c'est vraiment ce regard du réalisateur, enfin d'Ismaël. On a l'impression que finalement c'est, enfin le titre est, je trouve, est, pour ça est vraiment parfait. Enfin, les fantômes d'Ismaël, c'est vraiment ça en fait. On a l'impression que
oui, pas seulement les fantômes du passé qui reviennent le hanter comme non, on pourrait croire au début, non, mais c'est aussi,
mais aussi
le fantôme de la névrose et le fantôme de la création aussi.
Oui, et puis tous ces ectoplasmes qui naissent du whisky.
Oui.
parce que typiquement dans le train, il est complètement sous au moment où on voit ce train avec la gravité qui se distord bizarrement et des paysages étonnants qui passent à la fenêtre. Et justement, il va à Roubaix et on retrouve aussi toute la mythologie de Desplechin autour la ville de Roubaix, mais toutes les références à ses précédents films aussi. On voit passer le personnage d'Esther, on a ce personnage de Ivan Dédalus dans le film que tourne Ismaël, et c'est aussi toujours très agréable de voir toutes ces autoréférences à l'œuvre dans un film, de voir la cohérence extrêmement forte que Desplechin arrive à donner à l'entièreté de son œuvre depuis qu'il fait du cinéma. Et c'est vraiment, agréable de voir ça.
Oui, et puis on retrouve aussi, je l'ai déjà dit, mais cette qualité d'image, ce feutre presque de la lumière qui est quand même aussi... on se sent un peu... en terrain connu, mais on y est bien.
Qualité d'image qui met particulièrement bien en valeur les acteurs et même plutôt les actrices, parce que finalement, Amalric, on le connaît tellement dans les films de Desplechin qu'on sait exactement à quoi s'attendre, et Amalric est à son sommet, mais il n'y a rien d'étonnant à ça particulièrement, mais on se retrouve avec une Marion Cotillard et surtout, je trouve, une Charlotte Gainsbourg vraiment impressionnante.
Ouais, ça, je suis complètement d'accord. Pour moi, le personnage de Charlotte Gainsbourg éclipsait un peu celui de Marion Cotillard. J'imagine que ça correspond aussi aux deux personnages, parce que finalement... Marion Cotillard qui joue Carlotta, c'est aussi le personnage fantomatique, c'est la hantise, etc. Et elle est quand même moins physiquement, rationnellement présente que l'astrophysicienne qui est censée avoir les pieds sur Terre, quoi.
Mais, les pieds sur Terre, mais la tête dans les étoiles aussi, ouais, comme c'est répété quelques fois dans le film.
Oui, elle a vraiment une capacité de jeu, de jouer cette fragilité. Elle a l'impression qu'elle est au bord des larmes à chaque fois, mais elle reste... fébrile, tout le temps à fleur de peau, c'était assez, assez impressionnant. Et Marion Cotillard qui est quand même parfaite dans le rôle de l'agaçante. Enfin, vraiment.
Ouais, hyper agaçante.
Hyper agaçante, mais elle le fait
agaçante
super bien.
Et avec un côté très lunaire à côté de ça.
Oui.
Cette scène où elle danse et c'est à moitié... Il y a quelque chose d'agaçant, il y a quelque chose de très perturbant dans cette scène.
On se demande à quel point elle est complètement naïve ou alors complètement folle, d'où elle vient. Oui, est-ce qu'elle vient de... Elle vient de New Delhi, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a l'impression qu'elle a été... Puis elle explique qu'elle s'est droguée, etc. Enfin, on se demande... elle est complètement anachronique, en fait.
Oui, c'est ça. Déjà, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle est partie pendant 21 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Alors, ça suggère de la folie, mais en même temps, bon, c'est pas trop. Et du coup, ouais, ça faisait un bon duo. Il y a beaucoup de scènes, en fait, où elles sont confrontées l'une à l'autre. Et ça marchait très bien, assez souvent, avec des dialogues plutôt efficaces. Dont, d'ailleurs, des répliques... qui souvent, dans ce genre de film, ne sont pas dites, genre dans l'intrigue classique de triangle amoureux. Je sais pas, il y a ce moment où Charlotte Gainsbourg, donc du coup Sylvia, dit à Ismaël « Si tu couches avec elle, je te tue ». Et je sais pas, juste cette petite réplique, ça m'a fait beaucoup rire, parce que d'habitude, elle est complètement sous-entendue, mais on se doute bien de ce que ça veut dire dans un triangle amoureux. Et là, juste le fait qu'elle qu'elle rentre dans l'art comme ça un peu, ça correspondait vraiment à la manière dont j'ai perçu ce personnage que j'ai trouvé vraiment très attachant pendant tout le film.
Oui. Non mais oui, je suis tout à fait d'accord, c'est cette fébrilité dont tu parles, elle est vraiment extrêmement touchante et ça fait un très très beau personnage, un très très beau personnage. Alors c'est dû évidemment au jeu de Charles Gainsbourg, c'est manifestement aussi ce qu'a voulu Desplechin, comme on disait tout à l'heure, en lui confiant la conclusion du film sur vraiment le mode de la narration, et où là, soudain, on la voit apaisée.
Ouais.
Et quelque part, ça nous fait plaisir en tant que spectateur de voir qu'elle est bien. C'est un personnage auquel on s'attache.
Oui, exactement.
Oui, et à côté de ces deux personnages féminins et donc d'Ismaël, il y a aussi toute une galerie de personnages secondaires qui est assez intéressante. Alors, il faut parler du personnage qui joue le frère de Ismaël dans le film qu'Ismaël tourne, qui est joué par Louis Garrel dans un rôle de Louis Garrel taiseux bizarre. Il y a également le père de Carlotta, ce Henri Blum, réalisateur, mentor d'Ismaël, qui occasionne quelques scènes assez intéressantes aussi, je trouve.
Il y a une... Oui, puis il y a même des relations entre les personnages. Enfin, par exemple, la relation entre Blum et Ismaël est vraiment intéressante. Enfin, c'est une des premières relations, il me semble, qu'on voit à l'écran, oui. En fait. Oui. L'appel au milieu de la nuit, on ne sait pas encore qui c'est. On comprend que c'est le père de sa femme. Mais je trouve que c'était assez fin aussi pour ça. Les relations entre personnages... Il y a des duos qui fonctionnent sans que tout le monde soit relié forcément.
C'est ça, et à la fin, ça fait une belle galaxie de personnages ouais. Qui ont tous leur profondeur et qui ne sont pas juste des faire-valoir comme ça qui passent. Ça, c'est vraiment un côté très intéressant dans le film, le traitement des personnages secondaires.
Et pour finir, Marie, tu voulais parler d'histoire de l'art.
Ah là là, je suis obligée.
180 secondes avec l'histoire de là.
Non, mais il y a quand même plusieurs références, c'est vrai, qui sont assez, assez marquantes. Bon, c'est des gros. Mais par exemple, les époux Arnolfini, qui, on voit dans ce tableau le reflet du peintre qui est en train de peindre le tableau. Donc c'est assez gros comme ficelle, mais ça
mais d'ailleurs, il y a beaucoup de ficelles dans cette scène.
Il y a beaucoup de ficelles dans cette scène, effectivement. Et, mais ça reste... voilà, ça fonctionne bien parce que c'est des... Enfin, c'est des clins d'œil, mais qui, du coup, qui parlent aussi à tout le monde. Enfin, je veux dire, voilà, on n'a pas besoin de faire histoire de l'art pour comprendre la référence, mais... Ça rentre encore plus dans ce méta et cette scène géniale dans son grenier à tirer les ficelles pour comprendre
finir
la perspective.
Par tirer sur son producteur exécutif. Non, hein, c'est...
Voilà, oui. Des scènes qui valent quand même le coup. Quand on y repense.
C'est ça. Et peut-être seul regret, du coup, de ne pas avoir vu la version longue.
De ne pas avoir vu les quelques scènes qu'on nous a coupées.
Libérer la version longue.
Toujours est-il, chers auditeurs, que vous pouvez au moins vous contenter un peu partout en France et bientôt dans le monde de la version courte. Et puis pour les chanceux parmi vous qui sont sans doute des Parisiens de la version longue, ça s'appelle Les Fantômes d'Ismaël, c'est réalisé par Arnaud Desplechin. C'est en salle pour un petit moment encore, y compris chez nos partenaires des Cinémas Lumière. On continue avec les sorties ciné de la semaine, comme d'habitude, et je commence avec les sorties cannoises qui commencent à arriver maintenant, le jour d'après de Hong Sang-soo. Le réalisateur présentait d'ailleurs deux films à Cannes. Celui-ci suit le personnage de Areum qui s'apprête à vivre son premier jour de travail dans une petite maison d'édition. Bong Wan, son patron, a eu une relation amoureuse avec la femme qu'Areum remplace. Leur liaison vient de se terminer et ce jour-là, comme tous les jours, Bong Wan quitte le domicile conjugal bien avant l'aube pour partir au travail sans arrêter de penser à la femme qui est partie. Un film très mélancolique de Hong Sang-soo qui filme ses personnages dans un magnifique noir et blanc. Ça passe entre autres chez nos amis des cinémas Lumière. Du côté des sorties cannoises et en documentaire aussi, le nouveau documentaire de Barbet Schroeder, attention, interdit aux moins de 12 ans, Le Vénérable W. Alors le Vénérable W, nous sommes en Birmanie, c'est un moine bouddhiste très influent. Partir à sa rencontre, comme l'a fait Barbet Schroeder, c'est se retrouver au cœur du racisme quotidien et observer comment l'islamophobie et le discours haineux se transforment en violence et en destruction dans la société birmane. un documentaire choc qui a un petit peu secoué Cannes, à retrouver également dans les cinémas Lumière. Et puis au Comédia, vous pourrez voir Faute d'amour, le très remarqué film d'Andrei Zvyagintsev, qui nous montre un couple en train de divorcer, ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Chacun prépare déjà son avenir respectif. Lui est en couple avec une jeune femme enceinte, elle fréquente un homme aisé qui semble prêt à l'épouser, sans qu'aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour leur fils de 10 ans jusqu'à ce que celui-ci disparaisse. Sous des apparences de thriller qui n'en est pas vraiment un, Andrei Zvyagintsev montre une fois de plus les failles de la société russe avec la cruauté qu'on lui connaît, et le film a été couronné du prix du jury au dernier festival de Cannes. C'est donc présenté en avant-première ce samedi au Comédia. Je signale également qu'une autre avant-première aura lieu vendredi à 20h aussi, le nouveau film de Michel Hazanavicius, Le Redoutable, où Louis Garrel incarne Jean-Luc Godard dans ce film à cheval entre la caricature et l'hommage. Voilà, en dehors de ça, le cinéma, ce n'est pas que Cannes non plus. Je vous parle également de Suntan de Argyris Papadimitropoulos, qui nous présente le personnage de Kostis, quarantenaire engagé par la municipalité comme docteur sur l'île d'Antiparos, en Grèce. Il y passe un hiver solitaire et morne, mais quand l'été arrive, l'île se transforme en lieu de villégiature hédoniste, avec ses plages naturistes et ses fêtes sans fin, pour un film que la 7ème Obsession qualifie de condensé grec à l'énergie ébouriffante, de Welbeck, Lolita et l'inconnu du lac de Guirodi, rien que ça. Je vous renvoie vers la bande-annonce pour un aperçu de cette ambiance légèrement délétère. Et puis je rappelle également que L'amant d'un jour, le dernier Philippe Garrel, est sorti il y a maintenant 2 semaines. Nous n'avons toujours pas pu le voir, mais il fait toujours autant envie. Du côté des festivals, c'est au Cinéma Lumière qu'il faut se rendre cette semaine pour Métamorphose, focus sur le cinéma européen contemporain. Ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 12 juin. Au menu du festival, 12 films européens contemporains, donc en avant-première ou en exclusivité, avec entre autres un film inédit de Fatih Akin par exemple, et puis des films polonais, roumains, italiens, etc. Une sélection de courts-métrages également. C'est dans les cinémas Lumière, Bellecour et Terreau, donc cette semaine. Et puis pour clôturer la saison, l'Institut Lumière organise en partenariat avec l'Auditorium de Lyon 3 ciné-concerts, 3 projections accompagnées par l'Orchestre de Lyon de The Artist de Michel Hazanavicius. Ce sera ce soir, demain et après-demain à l'Auditorium, il y a encore des places. C'est l'occasion de voir l'un des films marquants de la dernière décennie dans un cadre exceptionnel. Puisqu'on parle de l'Institut Lumière, remontons un petit peu dans le temps, mais restons du côté de la musique avec Fitzcarraldo de Werner Herzog, peut-être son plus grand film, avec Klaus Kinski et Claudia Cardinale, hein, puisque c'est dans la rétrospective Cardinale, où Brian Fitzcarraldo rêve de réunir le ténor italien Enrico Caruso et la grande actrice Sarah Bernhardt à Iquitos, ville péruvienne perdue dans la forêt vierge, pour y célébrer l'opéra de Verdi, et pour financer ce rêve, il décide d'exploiter un territoire accidenté d'arbres à caoutchouc. Une vertigineuse descente dans la folie, une de plus, me direz-vous, filmée par Werner Herzog avec ce duo avec Klaus Kinski qui reste dans les plus impressionnants de l'histoire du cinéma. C'est à voir ce vendredi et puis également le vendredi 23 juin à l'Institut Lumière. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais le long métrage, le préquel à Twin Peaks Firewalk With Me, réalisé par David Lynch en 92, est projeté dans plusieurs salles lyonnaises actuellement, entre autres le Comédia toute la semaine, et puis il sera projeté en séance présentée dans le cadre des Midnight Movies du Lumière Terreau, samedi 17 juin à 22h30, pour les amateurs de Lynch et de son univers. Et puis le ciné-café Aquarium projette jeudi prochain à 20h45 Poussière dans le vent de Houssia Hossein. Voilà l'un de ces très très grands films de jeunesse autobiographique du réalisateur taïwanais. Le film suit avec délicatesse un couple d'amis qui ont grandi ensemble dans un village de montagne et se retrouvent à la ville, suit la naissance petit à petit de l'amour entre ces deux personnages pour un final particulièrement déchirant. C'est Poussière dans le vent ou c'est aux scènes jeudi 15 juin, donc à 20h45 au Ciné-Café Aquarium. Et puis alors là, on remonte très très loin dans le temps. On termine cette saison de D'étoiles plein les yeux avec un retour aux origines, puisqu'une sélection de films de Georges Méliès est projetée mercredi 28 juin au Périscope à Perrache. C'est le 28 juin à 20h30. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de voir les films de ce célèbre réalisateur des tout débuts du cinéma, c'est l'occasion rêvée de voir une sélection de ses courts-métrages. Voilà, D'étoiles plein les yeux, c'est fini pour ce 62e numéro. Aujourd'hui, pour le cinéma, c'était Marie Lécuyer, Marie Blanc et puis mon indispensable camarade animatrice, j'ai nommé Anastasia. À la technique aujourd'hui, Sébastien Boudin de NS Media en renfort et puis Marie Blanc qu'il convient de saluer chaleureusement pour son boulot en régie cette année, pour avoir affronté vaillamment les jingles pas normalisés, la chaleur étouffante de la cabine de régie et les potards de master insidieusement baissés. Vous pourrez nous retrouver sur notre site transistor.fr où je vous encourage à nous laisser des commentaires même au plus fort de l'été, et puis bien sûr sur notre page Facebook où nous continuerons de vous abreuver de suggestions pendant tout l'été. L'étoile plein les yeux, c'est une émission produite par Rémi Cerda et Anastasia Kozireva qui vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans les salles obscures. Mais attendez, chers auditeurs, ne partez pas, on ne se lève jamais avant la fin du générique. Et pour clore en beauté cette formidable année de cinéma passée à vos côtés, une petite désannonce s'impose assurément. Voilà, D'étoiles plein les yeux, cette année c'était pas moins de 36 numéros pour un total de 52 films, ce qui n'aurait pas été possible sans l'implication et parfois le courage de nos 20 chroniqueurs de la saison, Alice une fois, Alice deux fois, Anna, Aurore, notre spécialiste des films traumatiques, Camilla, Clément, Corentin, Héloïse, Hugo, Léo, Maëlys, Marie, la femme de l'ombre, qui ne pouvait donc qu'aimer les salles obscures, et puis l'autre Marie, qui justement ne l'aime pas cette ombre en particulier, celle que nous faisons à En Spectateur, hashtag des os, pas des os, et puis Mathias, Maxime, Mériel, Myriam, Nicolas, Pierre et Sarah. Chroniqueurs parmi lesquels nous distinguerons Pierre, notre sérivore, qui aura vaillamment posé son petit écran à côté de notre grande toile tout au long de ce second semestre. D'étoiles plein les yeux, c'était aussi 6 diffusions en direct cette année, l'occasion pour nous de remercier encore la régie, les équipes de NS Media également, parce qu'au cinéma comme à la radio, sans les techniciens, il n'y a plus rien. Merci à eux donc pour avoir mis en lumière et surtout en ondes nos beaux physiques de radio. On n'oublie pas non plus les amis des Cinémas Lumière qui nous ont soutenus dans la préparation et la diffusion des émissions et nous ont permis de réaliser une belle interview de Kiyoshi Kurosawa pour le numéro 50, une expérience que nous serons, j'espère, amenés à renouveler bien des fois encore. On salue donc Sylvie Darocha, Julien Nouveau et toute l'équipe des Cinémas Lumière. Et puis, dernière figure irremplaçable à honorer de mes salutations les plus enthousiastes, Anastasia, coproductrice de l'émission Devant l'Éternel, car à la radio comme à la belote ou en amour, c'est toujours mieux d'avoir un bon partenaire. Enfin, il y a vous, chers auditeurs, vous dont les oreilles accueillantes donnent vie à notre travail, vous avec qui nous avons été très heureux de partager cette saison avec quelques films dont on se souviendra longtemps. La bouleversante Tortue Rouge, bien sûr, encore et toujours. Mais aussi le regard splendide de Paola Baer chez Ozon, L'humanité éplorée de Ken Loach, Cotillard, inoubliable dans Mal de pierre de Nicole Garcia, le magnifique Fée de beaux rêves de Bellocchio, l'ultime chef-d'œuvre d'Andrei Vajda avec Les fleurs bleues, puis le mysticisme immémorial de Terrence Malick récemment, et bien sûr, quelques claques, Nocturama ou L'enfer fait cinéma, machine fascinante et implacable, paroxysme d'une modernité définitivement démente. Fukuhama est chef-d'œuvre du cinéma documentaire, même si le terme de documentaire est ici absurde, la preuve éclatante que le réel peut être plus éloquent et plus artistique que toutes les fictions. Et puis, le phénomène La La Land, où le génie de la mise en scène s'allie au cinéma le plus populaire comme seul Hollywood a su le faire pour nous réunir tous, qui que nous soyons, devant ces objets magiques que sont les écrans de cinéma. Voilà ce que nous avons essayé de faire à notre mesure, vous donner des envies de découverte, critiquer, discuter, commenter, parfois batailler, mais surtout faire partager une passion. Pour l'instant, nous prenons des vacances. Mais dès la rentrée, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et d'ici là, si l'été est trop chaud, n'oubliez pas le refuge des salles obscures qui vous tend les bras.
J'adore la manière dont ce réalisateur joue sur le regard à la fin de chacun de ses films. Enfin, le regard, il veut tout dire.
Parce que c'est pas juste les grands films du cinéma français, c'est même pas du tout ça, c'est avant tout la réception d'un spectateur qui commence par son enfance jusqu'à sa vie d'adulte.
On ne peut s'empêcher de penser qu'il y a une sorte de parallèle ou de regard rétrospectif de Vajda sur sa vie, sur son propre engagement.
Si on rit parce qu'on trouve ça drôle ou parce qu'on est très gêné de voir la situation qui est en train de se mettre en place à l'écran en fait.
Et aussi il y a une mise en abîme assez amusante je trouve avec la montre du journaliste.
Oui, et en même temps d'une façon toujours très artistique, donc on n'a jamais l'impression de tomber vraiment dans la pornographie.
Et on voit des photos de lui sur un écran, on voit même pas interagir avec qui que ce soit.
Ça a été 2 heures d'angoisse et de malaise devant cette bande de jeunes. Sans but, je n'ai pas...
Non, il m'a pas lâché et j'étais vraiment sous tension. Et la fin m'a laissé bouche bée.
Sauf qu'après, on a 17 minutes de Rodrigo en train de dire « Mon Dieu, est-ce qu'il existe? Pourquoi tu me réponds pas? Qu'est-ce que tu fais? J'ai ça face à moi, j'en peux plus, je comprends rien et tout. »
Le grain est tel qu'on aurait presque dit que c'était dessiné.
Ça ajoute un peu un côté humain à ces personnes, à ces femmes qui sont pas seulement, des corps, mais qui sont pas seulement non plus... Les femmes qui se battent pour leur liberté, pas du tout.
Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un équilibre entre la parole et le silence.
J'ai l'impression d'un espèce de voilà, exercice de style, exercice de théâtre, où on te demande de passer de l'émotion à la colère en passant par la gentillesse.
Et finalement, on voit le regard de Paulina qui se transforme au fur et à mesure et qui commence à voir la danse partout dans la vie.
Et cette espèce de menace aussi, pendant tout le film, on se dit mais il va le dire, il va pas le dire, ouais, non.
La caméra le suit un petit peu comme si... celui qui portait la caméra marchait avec lui.
Il y a vraiment que lui et les autres personnages qui gravitent autour. Bah, comme dans un rêve en fait.
Mais c'est finalement un film lyrique, comme tu l'as dit, et qui repose beaucoup sur des ambiances musicales et un grand onirisme.
On se rend compte que c'est pas forcément tellement différent quand on quitte la salle de cinéma. On est toujours autant spectateur de cette situation.
On finit par comprendre qu'on a peut-être été touché l'espace d'1h20 par quelque chose qui ressemble à une forme de grâce.
Je suis persuadée qu'il trouvera aussi ses amateurs de la part des spectateurs qui y trouveront de la vie, de la passion et peut-être d'apaisement. Je vous souhaite donc de très bonnes vacances et à bientôt sur Transistor.
Allons-y. D'ailleurs, est-ce que c'est Hippolyte Girardot, c'est le producteur, c'est lui ou c'est pas lui?
Il peut dire, je crois que c'est le producteur exécutif. Ouais. Okay. Putain, je crois que c'est lui. C'est lui ou le diplomate en chef.
Mais oui, j'en doute.
À mon
là.
Avis, je pense que c'est putain, quelques lits là déjà. Bon, on va dire que c'est lui.
Ok.
De toute façon, ce qu'on fait, c'est que tu le dis. Comme ça, si c'est une connerie, les gens se disent bon, c'est une chroniqueuse qui l'a pêché, je sais pas où.